Alors voici l'enregistrement d'un thème qui me tient à cœur, qui est l'évangélisation. D'aucuns diraient la nouvelle évangélisation. Et je voudrais vous faire partager quelque chose qui a mûri en moi depuis un certain temps. Cela fait une paire d'années que je puis dire que je suis chrétien. Ma conversion fut brusque. J'avais 17 ans, maintenant j'en ai 41, vous imaginez. Et je remarque une chose, plus ma relation avec le Seigneur s'approfondit, plus j'ai envie de ce que l'on pourrait appeler évangéliser. Et comment dire, la première partie de cet enregistrement pourrait s'intituler « Pourquoi évangéliser ?» et ensuite nous verrons comment évangéliser. Alors pourquoi évangéliser? Je viens déjà de donner un élément de réponse. Je viens de dire qu'en fait, plus je connaissais le Seigneur, plus j'avais envie d'en parler. Eh ben, l'évangélisation, c'est un terme un peu barbare, mais c'est tout simple. Pourquoi évangéliser? Ce serait comme poser la question, pourquoi parler d'une personne que l'on aime? Ben, parce qu'on l'aime. Quand on aime une personne, on pourrait dire même, des fois, ça marche aussi pour quelque chose. Mais alors plus forte raison pour une personne. Quand on aime, quand on a une passion, on aime la partager. Alors pour une personne, vous imaginez comme cela est encore plus vrai. D'ailleurs, quand on est amoureux, on ne peut pas s'empêcher de parler de la personne qu'on aime. Ben, je dirais que si on a découvert le Seigneur comme un ami qui nous aime à chaque moment, à qui on peut se confier, il est tout à fait naturel de vouloir en parler. C'est d'abord ça l'évangélisation. Je dirais que la première raison pour laquelle on peut évangéliser, ou on se doit d'évangéliser, c'est tout simplement parce que on aime le Seigneur. Et une autre raison serait ne pas être, comment dire, égoïste. Effectivement, si nous avons découvert le Seigneur, si nous sommes persuadés qu'il est notre bonheur, si nous avons fait l'expérience de ce bonheur, comment pourrait-on le garder pour soi? Hein, comment pourrait-on, comme Jésus dit, l'évangile, la bonne nouvelle n'est pas faite pour être mise sur le boisseau, c'est une lampe qui doit éclairer. Il faut bien y penser. Comment, si on a trouvé le moyen d'être heureux, pouvoir le garder pour soi? C'est aussi une générosité. Parce qu'on parle souvent de partager, d'aider les autres au niveau matériel, on parle de chrétien égale aider les autres matériellement, et c'est vrai. Mais c'est aussi aider les autres spirituellement. Combien de gens dépriment, combien de gens n'ont pas de but dans la vie? Nous avons trouvé un but, nous avons trouvé le chemin. Et alors, comment pourrait-on le garder pour nous? Ça serait vraiment terriblement égoïste. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il me vient deux versets bibliques. Le premier se trouve au livre des Actes des Apôtres, et c'est les apôtres qui y ont été arrêtés, et voilà ce qu'ils disent au verset 12 du chapitre 3 des Actes des Apôtres, aux pharisiens et aux sadducéens qui les avaient arrêtés. Pierre déclare, il n'y a de salut, en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Nous avons la réponse, c'est notre responsabilité de la transmettre. Ensuite, comment dire, je parlais de l'égoïsme, donc, et ça me rappelle un autre texte. Donc là, le texte que je viens de citer, c'est pour nous montrer que finalement, nous avons trouvé le bonheur, notre ami. C'est notre responsabilité de le transmettre. Et un autre texte me vient à l'esprit, c'est le livre d'Amos. Alors, c'est en Amos chapitre 8, du verset 1 à 7. Et nous avons une critique très virulente d'Amos, des riches qui ne pensent qu'à eux, qui se repaissent de leur richesse, qui se vautrent dans le luxe pendant que des pauvres meurent de faim. Alors bien sûr, d'apprendre au premier degré, au niveau matériel, mais c'est aussi au niveau spirituel. Et alors, pensons à ce texte avec, comment dire, la fin spirituelle en tête. Et alors, nous verrons quelle est notre responsabilité. Alors voilà Amos, il parle, donc il dit « Couchez sur des lits d'ivoire, vautrez sur leur divan, Il mange les meilleurs agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres. Donc voilà, nous, nous avons la richesse spirituelle. Nous nous repaissons de la parole de Dieu. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent comme David des instruments de musique, ils boivent le vin à même les amphores. On peut, là aussi, nous pouvons penser à l'Eucharistie. Nous avons le privilège de communier à Dieu. Ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. Alors nous avons notre petite spiritualité, nous sommes heureux, nous avons la lecture de la parole, nous avons les trésors de la tradition de l'Église, la liturgie, et c'est le désastre autour de nous. Il suffit de regarder notre monde. Alors que faisons-nous? Comme eux? Alors voilà la réponse de Dieu. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils seront les premiers déportés, et la bande des vautrés n'existera plus. C'est tout simple. Si en tant que chrétiens, nous n'évangélisons pas, nous n'existerons plus. C'est peut-être ce qui arrive aussi à l'Église. Quand l'Église perd son sens missionnaire, elle s'attiédit, et alors, tout simplement, il n'y a plus d'Église. Eh bien, dans notre vie, nous pouvons en faire l'expérience. Si notre but est d'évangéliser, de partager cette présence que nous avons en nous, de parler de notre ami Jésus-Christ, alors notre voix s'approfondira. Un petit peu comme un sport, en le pratiquant, on s'améliore. Eh bien, l'évangélisation, c'est une image un peu qui a ses limites, bien sûr. Mais l'évangélisation, c'est le sport de l'esprit. C'est le sport du chrétien. Je dirais, plus qu'un sport, c'est une nécessité. Et vous verrez, si vous avez en tête l'évangélisation, le partage du Seigneur, alors votre foi se fera plus fort. Tout simplement parce que déjà, votre responsabilité de témoin sera engagée et vous prendrez plus au sérieux votre vie de chrétien. Parce que vous savez que votre vie est aussi, est d'abord et avant tout un témoignage. Donc dans ce cas-là, il n'est pas question de vivre une double vie, chrétien du dimanche et païen la semaine. Donc voilà le texte d'Amos. Si nous voulons exister, si nous voulons que notre foi se renforce, il faut évangéliser. Un autre texte qui nous rappelle notre responsabilité, le salut éternel. Très souvent, nous pensons que tout le monde est sauvé. Ça, c'est aussi un obstacle. On a visite à évangéliser parce que nous pensons à tort que bon, tout le monde est sauvé. De toute façon, à quoi ça sert d'évangéliser puisque tout le monde est sauvé? Alors, c'est vrai, Dieu appelle tout le monde, Dieu veut sauver tout le monde, mais tout le monde n'est pas sauvé. Parce que tout simplement, les hommes qui n'ont pas été préparés à recevoir l'évangile, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, enfin, ou très vaguement, comment pensez-vous qu'ils voudront vivre leur éternité? Avec un inconnu? Sûrement pas. Donc notre devoir, c'est de faire connaître Jésus pour que les gens aient envie de passer du temps avec lui, déjà maintenant et dans l'éternité. Parce qu'il n'y a pas de magie. Si les gens ne connaissent pas Jésus, s'ils ont une vie où leur bonheur n'était pas en Jésus-Christ, et qu'on leur a même donné une fausse image de Jésus, bah, à l'heure de leur mort, comme par magie, comme ça, Dieu violerait leur liberté. Pas du tout. Donc il faut que nous ayons cette responsabilité, il faut que nous soyons conscients, pardon, de cette responsabilité, de vraiment faire connaître le Christ pour que les gens aient envie de passer du temps avec lui. Alors je pense à Jean chapitre 5, versets 24 à 29, où effectivement on dit, Jésus disait aux Juifs, oui vraiment je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a envoyé, celui-là obtient la vie éternelle et échappe au jugement, car il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, pour être sauvé, donc il faut écouter sa parole et croire au Père. D'accord? Après, Jésus parle de la résurrection, il dit, l'heure vient où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ceux qui l'auront entendu vivront. Tout le monde entendra sa voix, c'est vrai. Et seulement ceux qui l'auront entendu vivront. C'est-à-dire ceux qui ont écouté sa parole et donc qui croiront au Père qui l'a envoyé. Donc, après, le Christ continue dans ce chapitre 5 de Saint Jean. Ne soyez pas surpris, il en revient où tous ceux qui sont dans les tombeaux vont entendre sa voix et ils sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressuscitant pour entrer dans la vie, ceux qui ont fait le mal ressuscitant pour être jugés. Alors, tout le monde ressuscite, effectivement, mais pas tous pour la vie. D'autres pour être jugés. Alors, faire le mal, c'est déjà agir mal envers son prochain, mais c'est aussi avoir renié Dieu, ne pas l'avoir aimé. Et si on n'aime pas Dieu, très souvent, on n'aime pas non plus son prochain dans la mesure où on est très égoïste, centré sur soi, car le moi abîmé par le péché est nécessairement égoïste. Donc le mal, l'indifférence, l'orgueil, ces choses-là sont ancrées au cœur de l'homme. Seul Jésus peut enlever ce péché qui défigure notre véritable humanité. Donc les gens sont appelés à ressusciter. Mais notre responsabilité, c'est que quand ils ressuscitent pour la vie parce qu'ils auront écouté Jésus. C'est bien ce qu'il dit. Les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Quelle responsabilité! Nous avons cette responsabilité. Notre responsabilité est engagée. Si nous ne parlons pas, si nous ne montrons pas Jésus aux autres, qui le fera? Comment pourront-ils se lever et écouter la voix du Christ? C'est impossible. Donc c'est bien à nous de le faire. Personne d'autre ne le fera parce que Dieu veut passer par l'homme en respectant sa liberté. Donc il veut qu'il soit par nous. C'est bien le sens aussi de ce passage où Jésus dit, tout ce que vous lirez sera lié dans les cieux, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous délirez sur terre sera délié dans les cieux. Si nous ne délions pas les liens de nos frères, alors ils seront toujours liés au ciel. Alors, comment dire? On peut comprendre maintenant cette parole de Saint Paul, terrible, donc qui se trouve au, comment dire, 1 Corinthiens 9, chapitre 16, qui, tout simplement, qui est connu, où il dit, donc je cite, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il faudrait que ce verset soit ancré dans nos mémoires, parce que Saint Paul avait bien conscience de sa responsabilité. Alors donc, je disais, si je veux conclure un peu cette première partie sur pourquoi évangéliser, comment dire, un obstacle, c'est le relativisme. C'est-à-dire que si tout le monde est sauvé, ça ne sert à rien de témoigner. Comme je viens, j'espère, de vous le montrer, ce n'est pas aussi simple que ça dans la parole de Dieu. Notre responsabilité est engagée. Deuxième chose, c'est tout à fait naturel, si notre amour du Christ est véritable, nous aurons envie de toute façon de partager cet ami que nous avons découvert. Parce que si simplement nous contentons de vivre notre petite foi, excusez-moi, sans vouloir le partager, notre amour du Christ est-il profond? Avons-nous une relation personnelle avec lui? Et je vais enfin aborder un autre chapitre dans ce pourquoi évangéliser qui est important. Un autre obstacle à l'évangélisation est que beaucoup pensent à tort que toutes les religions se valent. Ça, c'est aussi un autre relativisme. Hein, les musulmans, les hindous, les bouddhistes, finalement, tout le monde croit en Dieu plus ou moins, donc à quoi ça sert d'évangéliser? Alors, il faut bien comprendre que si les apôtres avaient agi de la sorte, eh bien, nous ne serions pas chrétiens. Parce que les apôtres, quand ils rencontraient des gens qui croyaient en d'autres dieux, n'essayaient pas de dire, bon, ils ont leur dieu, ça va. Ils essayaient de leur parler du Christ. Et sachez que l'hindouisme, par exemple, est une religion tout aussi polythéiste que l'étaient les religions de l'Empire romain. Donc, je ne vois pas pourquoi notre attitude devrait être différente. Ensuite, comment dire, prenons le bouddhisme. Le bouddhisme, il faut le savoir, a plusieurs branches, mais la véritable branche d'origine est une branche philosophique. Le bouddhisme ne croit pas en Dieu. Le bouddhisme, c'est un peu la tour de Babel. Nous surmontons au ciel par nos propres moyens et nous essayons de nous sauver par nous-mêmes dans une espèce de roue automatique qui, par réincarnation successive, nous déshumanise totalement pour enfin nous fondre dans une espèce de divinité informe. Alors si les gens n'ont que ça comme salut, ben je pense que c'est triste. Alors que nous avons découvert un Dieu qui nous aime infiniment au point de mourir pour nous, notre devoir n'est-il pas de leur donner l'espérance. Ensuite, oui, avant de passer à la suite, je reprends cette image de Babel. Finalement, l'homme essaie de sauver par lui-même, alors que Dieu descend vers lui. Eh bien, c'est nous qui devons faire descendre Dieu vers les hommes par notre témoignage, parce que Dieu veut passer par nous dans le respect de notre liberté. C'est extraordinaire la liberté que Dieu nous accorde et la responsabilité qu'il nous donne. Finalement, c'est une preuve de confiance. Je dirais que Dieu a foi en l'homme parce qu'il veut passer par nous. Il veut faire de nous ses collaborateurs. Eh bien, nous pouvons le remercier pour ça. Je fais un peu un panorama. Prenons l'islam, par exemple. Alors, l'islam, bien sûr, il croit en Dieu. Mais je dirais que il vous suffit de lire le Coran. Finalement, la meilleure façon de connaître l'islam, c'est de lire le Coran. Vous vous rendrez compte que le Coran est un livre très juridique qui n'a d'égal que les passages souvent les plus arides de l'Ancien Testament. Car moi-même, je l'ai lu. Et le Dieu du Coran est extrêmement lointain, pour ne pas dire arbitraire parfois. Alors, et le paradis du Coran est un peu un paradis au rabais, où l'intimité avec Dieu n'est pas garantie. Contrairement à ce que nous dit Jésus, par exemple, quand il dit que tous vivront pour Dieu, quand il parle de la résurrection aux Sadducéens. Ou quand Paul, par exemple, dit « Dieu sera tout en tous ». C'est pas du tout ça, c'est le paradis musulman. Et les musulmans, finalement, doivent aussi essayer de se sauver. Alors Dieu est miséricordieux, mais il faut quand même faire de bonnes œuvres et lutter sans être jamais sûr de son salut. Alors, c'est effectivement un peu triste. Et surtout, ce qui est le plus triste, c'est qu'il y a une absence de possibilité de relation personnelle avec Dieu dans l'islam. Eh bien, je dirais que le Dieu d'islam est un Dieu déformé. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le vrai Dieu, mais une image déformée de Dieu. Et ça, c'est important pour nous chrétiens, de leur montrer que le seul vrai Dieu est celui dont le Christ nous a révélé le visage. Et on pourrait continuer ainsi. Alors bien sûr, ce relativisme est encouragé, mais par certaines mauvaises interprétations, par exemple, de ce que Vatican II a dit. Parce que Vatican II a reconnu, effectivement, des valeurs positives dans les religions, mais simplement comme terreau ou une évangélisation. C'est d'ailleurs, au chapitre de 14 à 16 de Lumen Gentium, c'est-à-dire le chapitre dédié à l'Église. Et ce qui est frappant d'ailleurs dans ces chapitres que je viens de citer de Vatican II, c'est qu'un petit peu, les religions ne sont pas du tout montrées comme égales l'une à l'autre. Et on pourrait dire qu'ici, l'Église catholique est représentée, enfin, les religions en général, sont vues comme dans un cercle concentrique, c'est-à-dire plus on est proche du centre, plus on est proche de l'Église catholique, et plus on s'en éloigne, plus on est loin du centre, c'est-à-dire de l'image du vrai Dieu. D'ailleurs, pour vous donner une idée, voici les chapitres, par exemple dans Lumen Gentium, donc sur l'Église. Le premier chapitre s'intitule Les fidèles catholiques, chapitre 14. Ensuite, les liens de l'Église avec les chrétiens non catholiques. Après, on poursuit, on s'éloigne un petit peu du cercle du centre, les non chrétiens, on parle des juifs, ensuite des musulmans. Et en dernier, des autres religions, bouddhistes, hindous, etc. Donc on voit bien ici que c'est bien l'Église catholique, le christianisme, et en particulier l'Église catholique, qui a l'image la plus exacte de Dieu, qui est en mesure d'offrir à l'humanité la relation la plus enrichissante avec Dieu, et que les autres religions, bien qu'elles aient bien sûr des éléments de vérité, n'en sont pas moins éloignées de Dieu. D'ailleurs, le chapitre 17 donc parle de ces semences de Dieu dans les autres religions, comme des ferments pour une véritable évangélisation. Et il faut savoir que Benoît XVI, par exemple, bien sûr, il est un fervent adepte du dialogue avec l'islam, par exemple, mais il ne voit pas du tout une discussion théologique avec eux. Il voit surtout une discussion morale. On peut bien sûr collaborer avec eux pour lutter contre l'avortement, ce genre de choses. Mais une discussion théologique est impossible, donc toutes les religions ne se valent pas. Donc je résume la pensée, pourquoi évangéliser, ben je dirais parce que on aime véritablement le Christ et on a envie de partager ce que l'on aime. Ensuite, on est conscient qu'on a la clé du bonheur nous avons des richesses et nous devons ouvrir les yeux sur ce monde qui est pauvre spirituellement, qui a soif de Dieu. Où les gens sont déprimés, etc. Mère Teresa disait que la pire des pauvretés, c'est la solitude. Mais si on a le Christ comme ami personnel, il y a plus de solitude. Et on s'ouvre aussi sur les autres, et on découvre aussi des frères. Et ensuite, les autres religions, il faut savoir que si leur vision de Dieu est déformée, ils ont forcément quelque chose qui leur manque dans leur vie. Donc nous avons une responsabilité. Ce qui amène à la deuxième partie de cet enregistrement. Comment évangéliser? Parce que c'est une question vitale si on est convaincu du pourquoi évangéliser. Alors ici, évidemment, vu ce que je viens de dire, on pourrait croire, j'ai parlé beaucoup de parler, que évangéliser doit être un petit peu agressif, à la témoin de Jéhovah, faire du porte-à-porte, ou comme certains protestants, aller sur les places publiques et crier le nom de Dieu. Alors ici, je crois que ce qui peut nous servir de guide à cette deuxième partie, c'est, comment dire, deux passages de l'épître de Saint-Pierre, la première épître. D'abord le chapitre 2, verset 12. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Ici, il n'y a pas de parole. C'est donc par la vie qu'ils témoignent, mais nous sommes suffisamment explicitement chrétiens pour que les gens sachent que ce que nous faisons est fait au nom du Christ. Et en nous regardant vivre, eh bien, ils se rendront compte que leurs préjugés sont faux. Et un jour, Dieu les visitera. En sommes-nous convaincus? Ce qui m'amène au fondement, comment dire, de ce que je pense être une évangélisation, surtout pour nous catholiques, c'est que nous devons agir, aimer, dans l'espoir que Dieu va toucher les gens qui nous regardent vivre. Mais cet espoir est entretenu par le fait que nous prions pour ces gens, car nous devons avoir foi en la prière, en l'intercession. Jésus disait que la prière qui est sûrement exaucée, dans tous les cas, c'est la prière pour recevoir l'Esprit Saint. Eh bien, quand une personne se convertit à Dieu, dites-moi si ce n'est pas autre chose que recevoir l'Esprit Saint pour cette personne. Donc, si nous prions pour la personne, si cette prière est appuyée par notre action d'amour, qui est vue donc comme un prolongement de notre prière, alors, avec un certain temps, cette personne viendra à Dieu. Donc, voyez, ici, nous avons bien l'évangélisation. Nous sommes tendus vers l'évangélisation. Nous agissons au nom de Dieu. Nous voulons montrer aux gens ce que Dieu apporte dans notre vie et nous prions pour ces gens. Même s'il n'y a pas forcément de parole, nous avons l'esprit évangélisateur. Et nous prions aussi Dieu pour qu'il nous rende capable de témoigner en acte. C'est très important. Toute notre vie de prière, toute notre vie est axée sur ce but qui est de témoigner par notre vie, par notre amour, de notre vie en Christ, dans l'espoir, je dirais même pas dans l'attente, simplement, de l'exaucement de nos prières pour nos frères, qui un jour se retourneront. Si notre vie de prière et notre vie est axée, centrée et tournée vers ce but, alors nous amènerons beaucoup de gens à Jésus-Christ. Alors, ce qui, bien sûr, veut dire un respect, une écoute des autres, ce qui rejoint Vatican II par rapport aux autres religions. Il n'est pas question de venir et de dire aux autres ce que tu crois est faux, c'est mal. Il faut écouter les gens, il faut les respecter, mais être convaincu que nous avons quelque chose à leur apporter de plus grand. Mais ça ne nous dispense pas de nous laisser enrichir par les autres pour mieux épouser leur vie et leur montrer Jésus-Christ là où ils sont, par notre amour, notre respect, notre écoute et notre prière. Et c'est peut-être ce que l'Évangile appelait le Christ parlait avec autorité. Regardons Jésus-Christ, lui, il parlait, mais il guérissait en même temps. C'est-à-dire que chez Jésus, l'évangélisation n'est jamais séparée de l'acte, des actes. Il y a la prière et la guérison, et éventuellement le témoignage. Alors, ce qui m'amène au témoignage. Bien sûr, vu ce que je viens de dire, notre témoignage est d'abord en acte, nous ne devons pas, penser qu'il ne sera pas un jour demandé explicitement. Car si ces gens s'ouvrent à Dieu, un jour, nous demanderont peut-être, de rendre compte de notre espérance. Et donc, dans cet épître de Pierre, c'est même épître au chapitre 3, verset 15, me semble-t-il, oui. Voilà ce que Saint Pierre a dit. Donc, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc, si nous agissons, si nous prions pour tel frère, et nous prions que Dieu nous donne de prolonger notre prière par un amour vivant, par un témoignage efficace en acte de ce frère, un jour ou l'autre, il risque bien de nous demander compte de notre espérance. Alors ne nous inquiétons pas, car comme Jésus l'a dit, Dieu nous inspirera ce qu'il faut dire. Mais cela aussi veut dire que nous devons nous former en fréquentant le Seigneur, d'abord en priant, et puis nous former aussi par certaines lectures de la tradition, etc. Savoir vraiment en qui on croit. C'est d'ailleurs pour ça que les hérésies sont dangereuses, parce que les hérésies nous détournent de qui est véritablement Jésus. Donc il est important aussi de savoir pour qui en qui on croit. Alors vous voyez bien que cette évangélisation n'a rien à voir avec les témoins de Jéhovah qui font du porte-à-porte et qui débitent leurs versets sans même faire attention aux gens qui les écoutent, ou qui ne les écoutent pas d'ailleurs. Mais il faut donc prier et aimer. Voilà les deux mots-clés. Et je voudrais, à cet égard, vous citer encore d'autres chapitres qui montre bien cette corrélation entre la prière, par exemple, et la foi. Regardons au chapitre des Actes des Apôtres, on dit que à Jérusalem, chapitre 5, verset 12 à 16, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges se réalisaient dans le peuple. Tous les croyants d'un seul cœur se tenaient sous la colonnade de Salomon, donc ils priaient, ils étaient au temple, etc. Et on disait personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge, et des hommes et des femmes, de plus en plus nombreux, adhéraient au Seigneur par la foi. Nous avons ici des chrétiens qui prient sous la colonne de Salomon, c'est-à-dire sous. Donc, il y a un témoignage qui est fait au nom du Christ. Et bien, sans parole, les gens vont à la foi. Et on est jusqu'à sortir les malades, etc. Ainsi, quand Pierre passerait, il toucherait l'un ou l'autre de son ombre, etc., etc. Des esprits mauvais partaient et ils étaient tous guéris. Si nous sommes des êtres de prière, si nous sommes tournés vers l'évangélisation, vers d'abord notre Seigneur, et nous voulons le faire partager à nos frères, par un amour vivant entretenu par notre prière, amour vivant pour ces personnes, pour l'humanité, alors les gens viendront à nous et notre simple ombre les guérira, c'est-à-dire leur révélera le visage du Seigneur. Alors d'autres versets qui nous montrent que contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'évangélisation n'est pas d'abord en parole, même si parfois elle est nécessaire. Prenons par exemple l'épître de Saint Jacques, alors un passage assez connu. Donc, c'est, me semble-t-il, voilà le chapitre 2, verset 18. « Mais quelqu'un dira à toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir la foi, mais c'est bien ce que je viens de dire. Nous avons la prière, moi j'ai la foi que Jésus va m'exaucer et va donner l'Esprit Saint à la personne pour qui je prie. Mais cette foi est tellement vive qu'elle va me motiver pour aimer ce frère, pour en quelque sorte accélérer l'exaucement de ma prière. Voyez comment la foi et les œuvres s'appuient et se donnent la main l'une à l'autre. Alors il y a aussi pareil, la première épître de Saint Jean où Jean dit aussi qu'il faut s'aimer en acte et pas seulement en parole. Or c'est aussi un passage connu. En voici la lecture. Lui Jésus donc a donné sa vie pour nous. Donc Jésus a vraiment agi. Nous aussi nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans se laisser attendrir, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. Etc. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Donc voilà, c'est ce qui authentifie notre foi. Si tu as la foi, si tu cries, alors tu aimes, parce que tu sais que l'amour et la foi sont indissociables, que l'exaucement de ta prière est appuyé par ta foi, que ta prière est, est prolongée et rendue efficace par l'amour que tu montres à ton frère, le témoignage d'amour, mais aussi ce témoignage d'amour est nourri par cette propre prière que tu as pour ton frère et cette relation que tu as avec le Christ. Et je voudrais te faire remarquer que Jésus lui-même, dans l'Évangile, dit bien que les œuvres, que l'action, que l'amour qui soutient la prière est source de, comment dire, d'évangélisation. Prenons ce fameux exemple où Jésus dit, chapitre 5 de Saint Matthieu, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Et enfin, je pensais au porte-à-porte, hein, justement. Et je ne peux pas empêcher de vous lire ce chapitre de Saint Luc, chapitre 10, me semble-t-il. Oui, où Jésus dit, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Mais juste avant, il dit, n'allez pas de maison en maison. Parce que aller de maison en maison, c'est un petit peu l'évangélisation facile, je parle de Dieu, voilà, je débite mon discours. Alors que s'arrêter dans une maison et manger avec les gens, c'est vraiment évangéliser par l'amour. Et le premier amour commence par prier pour cette personne très fort, en l'aimant, en intercédant pour elle, et cet amour va déborder bien sûr en acte et en vérité par rapport à cette personne. Et c'est en ce sens-là que notre témoignage sera extrêmement efficace. Et je crois que le plus bel exemple que l'on puisse avoir de cette évangélisation qui est silencieuse par la prière qui donne la main au témoignage d'amour, ben c'est la Vierge Marie. C'est notre modèle, c'est la grande évangélisatrice. Parce que Marie est tellement discrète, mais combien de gens elle a amené à Dieu depuis des siècles. Je crois que il faut aussi demander à Marie de nous aider comme il est dit dans Saint Luc, à retenir toutes ces paroles, tous ces événements dans notre cœur, avoir une relation personnelle avec Jésus, le prier vraiment, le connaître pour le faire vraiment aimer, prier pour les personnes et avoir suffisamment la foi pour penser que notre témoignage appuyé ou qui prend sa source dans notre prière d'intercession pourra donner des fruits et éventuellement, et c'est fort possible, un témoignage en parole une fois que la personne aura manifesté de l'intérêt. Voilà, à mon avis, quelle est cette évangélisation qu'on pourrait appeler la nouvelle évangélisation. Vous voyez que l'évangélisation, si on lit les Actes des Apôtres, c'est bien ce qui se passait. Le témoignage en parole était accompagné par un témoignage de vie et de prière. Alors maintenant, l'époque a changé. Et le témoignage en parole, parfois avec l'hostilité qui se fait jour par rapport à la foi, cette espèce de côté blasé par rapport à la foi catholique ou chrétienne que l'on croit connaître, eh bien fait que le temps où l'on peut témoigner en parole pour expliciter nos actes de témoignage, ce temps parfois vient mais plus longtemps à venir, et donc cette période de silence et de gestation où prière et témoignage d'amour se font travaillent en coopération et main dans la main, c'est un temps qui est sûrement plus long que ce qu'il y avait à l'époque des premiers chrétiens, où malheureusement maintenant, la foi à notre époque n'est plus aussi porteuse de nouveautés en apparence. Donc nous devons accepter cette nouvelle façon d'évangéliser qui fait que la gestation silencieuse dans la prière, le témoignage d'amour, est plus longue avant que le témoignage explicite par la parole puisse éventuellement se faire jour. Parfois d'ailleurs ce témoignage ne vient pas forcément. La personne peut se convertir sans que nous ayons à témoigner, ou c'est peut-être parfois d'autres parents, d'autres personnes qui témoigneront pour nous, car comme Jésus dit, il y en a qui moissonnent et d'autres qui récoltent. Voilà, j'espère que par cet enregistrement, j'ai pu un peu vous aider et vous faire partager ce que le Seigneur me fait peut-être y découvrir depuis maintenant pas mal d'années que je chemine avec lui, que j'essaye de servir du mieux que je peux. Et je voudrais conclure cette prière en me tournant vers la Vierge, qui est notre modèle. Ô Sainte Mère de Dieu, comme à Cana, aide-nous à prier pour nos frères et leur dire, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce que le Seigneur vous dira. Voilà. Amen.
Free audio post-production by Alphonic.com.